Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie et cette émission spécifiquement consacrée à la géographie dans laquelle j'ai régulièrement le plaisir d'accueillir un géographe, Jean-Robert Pitt, de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons évoquer la figure d'un des plus grands géographes français du XXe siècle, Roger Dion, né en 1896 et mort en 1981, car une double actualité littéraire nous pousse à parler de lui. Il y a d'abord son chef-d'œuvre, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle, qui est réédité au CNRS Éditions. C'est un très gros ouvrage de plus de 800 pages et il avait été publié une première fois en 1959. Et la seconde actualité, c'est un non moins gros ouvrage, mais collectif, cette fois-ci dirigé par vous-même, Jean-Robert Pitt, qui rassemble et présente les matériaux d'un colloque organisé par la Société de géographie, dont vous êtes le président, et qui s'est tenu en janvier 2009 pour célébrer le cinquantenaire de la parution du livre de Roger Dion. J'espère qu'on aura bien compris tous les retentissements de cette double actualité. Donc vous avez repris pour cet ouvrage l'intitulé du colloque « Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-boire ». Rien que le titre, on a vraiment envie de s'y plonger. Il est paru chez CNRS Éditions en 2010. Alors avec la contribution d'une trentaine de spécialistes, je dis 30 parce que je crois qu'ils sont 24 ou 26,
mais
il y a des communications doubles. Des Français, des étrangers, vous allez nous en parler, qui relatent la manière dont l'œuvre et la pensée de Roger Dion est aujourd'hui reçue et diffusée. Alors d'abord un portrait de Roger Dion, Jean-Robert Pitt, qui était Roger Dion? Première question.
Alors Roger Dion est un géographe, tout ce qu'il y a de plus classique et même je dirais ultra classique, puisqu'il avait aussi une culture littéraire et une culture en langues anciennes plutôt rare chez les géographes, en latin et en grec, qu'il a toute sa vie utilisé ses connaissances en latin et en grec. En latin, beaucoup en lisant des textes médiévaux et des textes de l'Antiquité qu'il a traduit, interprété en géographe. Et à la fin de sa vie, dans les 10 dernières années de sa carrière au Collège de France, des textes grecs anciens aussi qu'il a commenté. Il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la géographie grecque ancienne. Roger Dion a fait des études, je dirais, normales et classiques de géographie, puis a fait une thèse très remarquable qu'on trouve encore en bibliothèque, qui malheureusement n'est plus disponible aujourd'hui en librairie, qu'il faudrait bien rééditer, qui s'appelle « Le Val-de-Loire », soutenu en 1934, et qui est une thèse dans laquelle, je dirais, la partie la plus originale, la plus fascinante, est l'histoire des levées de la Loire. Vous savez, ces digues qu'il y a le long des rives de la Loire et dont la construction a commencé il y a presque 1000 ans, et dont il raconte, pour avoir étudié tout ça dans les archives, avec quelques découvertes archéologiques. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin en matière d'archéologie des digues, mais comment elles ont été construites pour maîtriser ce fleuve fantasque. Et la Loire a été réellement domestiquée, maîtrisée par l'homme d'une façon extraordinairement précise.
Beau sujet. Alors,
juste après, il écrit un autre livre formidable sur les paysages ruraux français, en même temps que celui de Marc Bloch, mais qui va, je trouve, beaucoup plus loin dans l'analyse des paysages, où il essaye de montrer en fait la différence entre les paysages de bocage et les paysages d'open field. Et c'est un superbe livre parce que Dion maîtrise la langue française admirablement et c'est un vrai plaisir de lire Dion, même dans les chapitres les plus techniques. C'est toujours une langue magnifique qui coule toute seule avec beaucoup d'ampleur et de poésie. Et alors, il est nommé professeur à Lille, puis très brièvement, pendant la guerre, professeur à la Sorbonne. Et là, il fait des cours de géographie rurale, de géographie agraire, de géographie historique, de géographie économique même. Et en particulier, ça a été le déclic à propos de son intérêt pour le vin. Il fait un cours, parce que c'est au programme de l'agrégation, de géographie de l'alimentation.
Voilà, dans les années 37-38, voilà, il le dit lui-même dans son livre.
Pour l'agrégation. Et donc, il consacre 2 ou 3 leçons au vin, qui fait partie de l'alimentation des hommes. Le sujet lui paraît vraiment intéressant, ce qui fait qu'il y réfléchit pendant la guerre. C'est quelqu'un qui aimait bien le vin. Je connais bien ses 3 enfants qui confirment qu'il avait une très très bonne cave. J'ai même retrouvé une lettre de lui demandant à acheter un excellent Saint-Émilion qui s'appelle Château Figeac pour le mariage de sa fille. Voilà.
Et très bien,
on a gardé le souvenir de son passage au Château Figeac à Saint-Émilion. Il est élu au Collège de France en 1940. En 46,
48, c'est ça. En 48. 40,
voilà, voilà, en 47 et sa leçon inaugurale est en 48.
48, c'est ça.
Donc il commence son cours annuel et pendant 10 ans, il va approfondir cette question qu'il a fait lire au Collège de France, qui est l'histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXe siècle. Il y avait aussi, je dois dire, un article publié avant la guerre, remarquable dans les annales de géographie, sur les facteurs de la qualité du vin. Et plus il travaille dans les archives, pour essayer de comprendre l'histoire du vignoble champenois, du vignoble bordelais, du vignoble bourguignon, du vignoble d'Île-de-France, de tous les vignobles français.
Et des petits vignobles oubliés aussi, parce que j'ai trouvé qu'il y avait, enfin des petits, c'est pas péjoratif, mais il y a beaucoup de vignobles
que j'ai découvert. Saint-Pourçain, par exemple, qui est un très grand vignoble, un vignoble en train de renaître, a été beaucoup plus important au Moyen-Âge, puisque Paris et la cour de France approvisionnaient en 25%, il raconte tout ça. Mais surtout, ce lui apparaît de plus en plus clairement, à mesure qu'il travaille, une idée majeure, et que j'ose qualifier de génial, en tout cas d'une très grande originalité, c'est que, et qui est toujours un peu choquante aujourd'hui pour beaucoup de spécialistes du vin, en particulier de producteurs et d'œnologues, c'est que les vignobles de qualité ne sont pas d'abord liés à des conditions environnementales exceptionnelles qui sont un sol caillouteux. Vous savez, la vigne doit avoir les pieds au sec et la tête au soleil, un climat ensoleillé, des conditions d'hygrométrie idéales. C'est évidemment nécessaire, mais très loin d'être suffisant. Parce que, et sa grande découverte est d'avoir exhumé une phrase écrite par Olivier de Serres, l'agronome du règne d'Henri IV, en 1601, dans laquelle Olivier de Serres dit « Si n'est en lieu pour vendre votre vin, que ferez-vous d'un grand vignoble ?» Et c'est une idée extraordinaire qui est passée complètement sous silence pendant des siècles. C'est-à-dire l'idée qu'on construit, on aménage un vignoble spécialisé, donc un espace agricole spécialisé dans la viticulture et la production de vin, sans faire autre chose. Il y a des gens qui sont uniquement vignerons et propriétaires de viticoles, si l'on a la possibilité de vendre son vin. Et donc Dion, partant de cette idée, se dit, mais c'est bien sûr.
S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de
production. S'il n'y a pas de marché de consommation, eh bien, il n'y a pas de production. Ou alors, on fait une petite pièce de vigne ici ou là, comme dans certaines régions éloignées des voies de communication, en Auvergne, dans certains secteurs retirés du Midi pyrénéen, par exemple, où chacun a une pièce de vigne pour faire le vin de la consommation familiale. Mais comme on fait tout. Vous savez, dans les fermes de l'Ancien Régime, on disait une bonne ferme n'achète que le fer et le sel. Donc on produit du blé pour faire le pain, de la nourriture pour les animaux, on a des prairies, on a des animaux de toutes sortes, on fait du lait, du fromage, des plantes textiles pour s'habiller, etc. Et un peu de vin, parce qu'on est dans une civilisation chrétienne où le vin est important, ça fait partie de la civilisation occidentale. Mais la monoculture de la vigne et la viticulture de qualité, avec des vins qui peuvent se transporter et se conserver, ça n'existe que si il y a un marché de consommation qui est prêt à payer pour ce bon vin. Et donc, Roger Dion découvre que, eh bien, effectivement, tous les grands vignobles français les plus connus, qui sont encore ceux d'aujourd'hui, sont tous liés à la proximité d'une ville ou d'une foire ou d'un ensemble de foires ou d'une voie de communication permettant d'accéder à cette ville ou à un marché plus lointain. Et donc, d'où l'importance des routes, d'où l'importance des rivières et des fleuves, d'où l'importance des ports également, permettant d'accéder à des marchés de consommation plus lointains. Donc c'est ainsi que le vignoble champenois est directement lié grâce à la vallée de la Marne à Paris et à la basse vallée de la Seine, que le vignoble bourguignon est lié à l'ensemble du duché de Bourgogne et dans les Flandres. Au Moyen-Âge, c'était très difficile de faire du vin. Donc le vignoble de la Côte d'Or servait à approvisionner les grandes villes drapantes des Flandres, mais en même temps, par la Saône et par le Rhône, servait à approvisionner la ville des papes, c'est-à-dire Avignon, et les papes d'Avignon buvaient non pas du vin de Châteauneuf-du-Pape, qui n'existait pratiquement pas à l'époque, mais du vin de Beaune, qui avait une très grande réputation, parce que Beaune était né de l'immense richesse des ducs de Bourgogne et du savoir-faire des moines aussi, puisqu'on a là quelques très grandes abbayes, dont Citeaux, qui a inventé la viticulture de qualité au Clos de Vougeot. Le vignoble de Bordeaux, eh bien, est lié naturellement au marché de l'Europe du Nord, c'est-à-dire à l'Angleterre, à l'Irlande, aux Flandres, aux villes de la Hanse en Allemagne, à la Scandinavie. Et il a toujours été tourné vers ce marché. Et les Bordelais ont eu l'habileté, depuis Henri II Plantagenet et Aliénor d'Aquitaine, de se faire protéger par le roi, c'est-à-dire d'interdire aux vins venant de l'amont de la Garonne et de la Dordogne d'être vendus à Bordeaux avant la Saint-Martin, c'est-à-dire avant le 11 novembre.
Un protectionnisme.
Protectionnisme qui a duré, parce que ça n'a duré qu'un siècle, le rattachement de l'Aquitaine à l'Angleterre. Mais le roi de France a continué, lorsque Bordeaux est revenu dans le giron de la France, à maintenir ce privilège. C'est Turgot qui l'a fait sauter au XVIIIe siècle. Donc pendant 6 siècles, les Bordelais ont eu le privilège de voir leur vin pratiquement seul sur cet immense marché de consommation de l'Europe du Nord. Il ne faut pas oublier que la période moderne, du XIVe au XVIIIe siècle, est une période très froide, c'est le petit âge glaciaire, que faire du bon vin en Angleterre, c'est impossible à cette époque. Donc on a absolument besoin de vin venant de régions situées plus au sud, d'où le succès du Bordeaux. Dion ne parle pas de l'étranger, mais il aurait pu ajouter le Porto, le Jerez, sherry, le vin de Madère, le vin d'Afrique du Sud, tous ces vignobles atlantiques
très appréciés des Britanniques
ont été installés parfois même directement par les Britanniques, comme le vin de Marsala, qui est une plantation britannique. Mais sinon, tous les autres vignobles sont dans la mouvance du marché de l'Europe du Nord. Et ça, c'est Dion. Alors pareil pour le Cognac, qui est évidemment région de vignobles tardif, XVIIe siècle, mais tourné vers la production d'un alcool de vin très réputé, qui vieillit très bien, très apprécié en Europe du Nord, où on boit plutôt les alcools de grains. Et c'est bien plus agréable de boire de l'alcool de vin, d'où le succès incroyable du Cognac, alors que l'Armagnac, qui est assez comparable, même si la distillation est un peu différente, l'Armagnac est resté un alcool paysan jusqu'à une date très récente et très peu exporté par rapport au Cognac. Parce que le Cognac est près de Rochefort, de La Rochelle et de la ville de Cognac et de Jarnac, au bord de la Charente, avec la possibilité d'exporter. Donc voilà l'idée géniale de Roger Dion, qui donc remet en cause, il y a plein d'autres exemples qu'il cite et qu'il analyse siècle par siècle, qui remet complètement en cause cette primauté du facteur physique, du facteur environnemental, du facteur terroir physique sur la qualité du vin. Non pas que ça n'existe pas, parce que bien sûr, on ne peut pas faire du bon vin dans la plaine de la Beauce, c'est évident.
Pas que ça n'existe pas, mais il faut prendre en compte.
Mais ça
ne
suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir le facteur physique. C'est nécessaire, mais tout à fait insuffisant.
Il faut le facteur économique que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire le développement du marché. Mais je crois que Roger Dion, d'après ce que j'ai lu aussi, attribue aussi beaucoup d'importance au facteur humain, c'est-à-dire au travail acharné des vignerons, des exploitants viticoles et à leur talent.
C'est pourquoi on a mis le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-boire. Il ne suffit pas d'avoir un terroir, il faut avoir un marché de consommation, c'est le savoir-boire, et un marché de consommation éclairé, qui est amateur d'une certaine qualité de vin et qui joue sur cette qualité. Par exemple, le vin de champagne pétillant, mousseux, est une invention des Anglais. Après, les Champenois se sont mis à le faire, mais c'est une invention des Anglais à partir de vin tranquille, de champagne.
On va se faire quelques ennemis, j'ai
l'impression. Non, tout le monde le sait. C'est pas grave, puisqu'après, les Champenois ont récupéré l'art de faire le champagne et le font chez eux maintenant, dans leur cave magnifique. Donc, le savoir-boire, c'est tout à fait essentiel et un savoir-boire éclairé. Si l'acheteur n'est pas éclairé, il ne dépense pas son argent pour du bon vin. S'il est éclairé, plus il est éclairé, plus il aura envie de qualité et plus il sera prêt à mettre de l'argent pour la grande qualité. Et c'est là où intervient le savoir-faire, c'est-à-dire qu'entre le terroir et le savoir-boire, il y a les vignerons, les cultivateurs de la vigne, les vinificateurs, mais aussi les marchands de vin, les commerçants, les transporteurs, les négociants, les courtiers, toute cette famille extraordinaire des métiers du vin qui, en France, et nous avons été pionniers dans ce domaine-là, se perfectionne à partir du XIe siècle, ça commence dès le XIe siècle en Bourgogne et se perfectionne de siècle en siècle jusqu'à atteindre aujourd'hui des sommets. Et évidemment, ce savoir-faire a été exporté. Aujourd'hui, il y a partout en Europe et dans le monde de grands vignobles de qualité. Il y a des vignobles médiocres, mais il y a aussi de grands vignobles de qualité parce que, à partir du moment où il y a des amateurs, on peut faire du bon vin.
Alors, si je vous comprends bien, Roger Dion, c'est un géographe qui travaille en historien, qui tient compte de l'économie, de la géographie bien sûr, mais aussi de l'environnement et de l'humain.
Oui, et de la culture. Et de la culture, je crois que c'est très important parce que la grande leçon qu'on peut tirer de cette œuvre magistrale, comme des ouvrages précédents et même un peu des ouvrages suivants de Roger Dion, c'est qu'au fond, c'est un hymne à la liberté humaine. L'homme, avec les moyens qui sont les siens en fonction des techniques de l'époque, mais tout ça est en constante évolution, essaye, lorsqu'il est animé du désir de donner le meilleur de lui-même, arrive à faire donner à son environnement aussi le meilleur de lui-même. Exactement, moi je compare beaucoup avec la musique, avec une, je dirais, image un peu caricaturale, mais avec une planche de sapin, vous faites une caisse à savon ou un Stradivarius. Faire un Stradivarius, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. À quoi ça sert de faire un Stradivarius? Même aujourd'hui, on en fait encore, il y a des grands luthiers. À quoi ça sert? Eh bien, on ne le fait parce que ça coûte très cher, compte tenu du nombre incroyable de personnes, que parce qu'il y a des grands violonistes qui sont prêts à payer le prix et parce qu'il y a un public qui est prêt à payer le prix, à se déplacer pour écouter ces grands violonistes. Et par conséquent, vous avez la même chose, c'est nature, talent du musicien, mais aussi talent du public. Et un public qui ne serait pas éclairé, s'il n'y a pas de public éclairé, il n'y a pas de grand musicien, il n'y a pas de grand orchestre. Et c'est exactement pareil pour le vin. Et ça, c'est donc la souveraine liberté des hommes que montre Dion par rapport à cette idée aujourd'hui très ancrée dans la mentalité du 21e siècle, qui moi m'effraie complètement, qui est cette peur panique de l'environnement, du ciel qui va nous tomber sur la tête, de la nature qui se venge par rapport à l'homme, alors que toute notre histoire, dans toutes sortes de domaines, là on parle de vin mais on pourrait parler de bien d'autres sujets, toute notre histoire montre toujours la souveraine liberté des hommes à condition...
Le vouloir humain, dit Roger Dion, oui, c'est ça.
À condition que les hommes vivent en paix, administrés par un gouvernement éclairé lui aussi, Et si vous me permettez une parenthèse sur un autre géographe de la même période que Roger Dion, qui enseignait au Collège de France en même temps que lui, c'est Pierre Gouroux, qui lui a travaillé beaucoup sur l'Asie des moussons et sur la riziculture, qui est un géographe extraordinaire aussi. Et lui montre que ces paysages fantastiques des deltas du Mékong, du fleuve Jaune, etc., ne sont pas liés d'abord à la mousson, ne sont pas liés d'abord à des sols alluviaux. Bien sûr que si, il faut ça pour faire du riz, puisque c'est une plante qui a besoin d'avoir les pieds dans l'eau, mais c'est lié d'abord à l'encadrement social. Parce que maîtriser l'eau, maîtriser la riziculture, ça demande une société extrêmement solidaire. Et il faut donc un véritable encadrement social. Et quand il y a la mousson, le delta, l'encadrement social, il y a la production de riz et il y a 500 habitants au kilomètre carré, alors même qu'on n'a pas d'engrais, qu'on n'a pas de moyens techniques modernes. Et c'est ça le miracle de la riziculture inondée de l'Asie. C'est un fait de civilisation avant d'être un fait d'environnement, même si le riz est une plante qui pousse à l'état sauvage dans ces deltas tropicaux.
Pour conclure, si vous voulez bien, sur cette rapide présentation du gros livre de Roger Dion, donc paru à CNRS Éditions, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle, Jean-Robert Pitt, vous dites, pour le présenter, que c'est un hymne à une conception sensible et humaniste de la géographie, à l'intelligence, au bonheur, au dépassement de soi et à la civilisation. On ne peut pas dire mieux, je crois,
oui, enfin, pour éloge. Moi, c'est, pour moi, bon, comme le vin, Dion dit tout à fait au début, dans les premières pages, il dit c'est la boisson, au fond, qui n'est pas absolument indispensable, parce qu'il suffit de boire de l'eau pour survivre,
oui.
De manger, mais,
oui,
mais au point de vue
plus,
boisson. Donc, on boit le vin par plaisir,
par plaisir,
par désir même, je dirais, par dilection, par choix, et même, on boit sans soif. Il vaut mieux pas trop en abuser,
pas trop,
avec modération, mais tout de même, c'est une boisson qui est tellement merveilleuse, parce que elle provoque l'euphorie, elle aiguise le sens des responsabilités, elle aide à la sociabilité, et puis elle élève l'âme, parce que le bon vin, c'est une tellement belle chose qu'on ne peut qu'être transporté par un bon vin. Là encore, sans en abuser. À partir du moment où on en abuse, on tombe dans les excès fâcheux. Mais le bon vin bu avec modération, ça ne peut qu'aider l'homme à exprimer le meilleur de lui-même. Et ça, Dion le montre très 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 bien.
Fêter le 50e anniversaire donc, de cette parution du livre de Dion, donc vous avez en 2009 organisé un colloque, et ce sont les actes de ce colloque qui paraissent aussi chez CNRS Éditions, Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-boire. Alors je crois que l'originalité de ce colloque, c'était tout de même de rassembler des spécialistes de la pensée de Dion, des spécialistes du vin, mais pas seulement des Français, il y avait aussi des étrangers.
Oui, alors il y avait un certain nombre de collègues anglais, américains, japonais qui sont venus. Il y avait le traducteur de Dion, parce que ce livre de Dion a été très peu diffusé en France et dans le monde. Dion ne s'occupait pas de la diffusion de sa pensée. Il avait très peu d'élèves au Collège de France. À partir du moment où il était au Collège de France, il n'a pas eu de thésard, comme on dit, ce qui est à l'université. Il ne faisait aucun effort de promotion de sa pensée. Il fallait aller acheter le livre chez lui, frapper chez lui pour pouvoir l'acheter.
Du coup, il n'a pas eu la notoriété qu'il
tout.
Mérite.
Évidemment.
C'est pour ça que vous vous y employez.
Évidemment,
alors,
évidemment. Et même, Mme Jacquin Dion, qui est sa fille aînée, l'a écrit dans le petit texte qu'elle nous a donné. Elle dit quelque part, merci, vous nous avez révélé la pensée de notre père qui nous avait un peu échappé. C'est-à-dire que même à la maison, où paraît-il c'était quelqu'un d'agréable et qui aimait encore une fois bien la bonne table et le bon vin, il ne voulait pas embêter ses enfants et ses petits-enfants avec ses travaux. Donc, il parlait très très peu de ce qu'il faisait. Et ce qui est plus ennuyeux, je trouve, parce que ça nous a fait perdre 50 ans, c'est que cette pensée si féconde, bien que Dion s'arrête à la fin du 19e siècle, il ne parle pas du 20e siècle, mais cette pensée si féconde, on découvre seulement maintenant qu'elle est d'une prodigieuse actualité pour réfléchir et aux questions viticoles d'aujourd'hui et à bien d'autres questions qui dépassent la viticulture et le bon vin. Et donc, c'est une pensée extraordinairement optimiste qui peut aider nos sociétés contemporaines à être plus dynamiques et optimistes face à leur environnement.
Je voudrais dire un mot aussi sur les outils du livre, parce que s'il est gros, c'est qu'il y a aussi des outils extraordinaires dans ce livre, enfin qu'on ne trouve pas dans tous les livres, loin de là, des cartes, très nombreuses cartes, des photographies, des documents anciens, des textes littéraires, des citations, des extraits, tout cela référencé dans des index très utiles, une bibliographie extrêmement abondante qui à elle seule fait 40 pages. Et on trouve même, alors ça m'a beaucoup amusé, les anciennes mesures. Le tonneau, ça fait combien? Alors ça, on ne le dira pas, parce que nos auditeurs vont chercher en achetant le livre. La pipe, la queue, le muide et ses subdivisions, la fillette et le sétier.
Qui varient en plus d'une région à l'autre.
Voilà, donc il y a là, dans le livre de Roger Dion, toutes les réponses. Alors dans ce livre, le
oui,
vôtre,
mais
si
j'ajoute
je peux
quand
dire...
même, parce que je ne veux pas faire peur, voyez, pas donc, faire peur aux lecteurs, j'ajoute quand même que, même s'il y a ces précisions très techniques en annexe, ce texte se lit avec une très grande facilité, même pour des non-spécialistes, pour des non-géographes. Ceux qui ne connaîtraient pas grand-chose au vin, non seulement ils ne doivent pas avoir peur, mais ils ont intérêt à le lire parce qu'ils vont découvrir un univers qui va leur donner envie de goûter les bons vins.
Absolument. Alors, donc c'est, au fond, c'est ce colloque, c'est ce que vous avez voulu faire. Voilà. C'est rendre hommage à la pensée de Roger Dion et montrer son actualité. Alors...
Oui, alors vous dites qu'il y avait un certain nombre de collègues étrangers, historiens en particulier ou anthropologues, mais il y avait aussi des collègues français de diverses spécialités, donc des géographes, bien sûr, des historiens, des anthropologues, un géologue extraordinaire, le professeur Garcia de Dijon, qui fait des recherches actuellement sur l'histoire de la viticulture bourguignonne et qui renouvelle complètement la pensée de Dion, sans la contredire, mais qui renouvelle par des découvertes contemporaines extraordinaires, archéologiques essentiellement. Il y avait aussi, j'ai tenu beaucoup à ça, des journalistes et des vignerons. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de confronter le point de vue des scientifiques, des savants, avec celui des gens de terrain ou d'une profession qui souvent ne participent pas aux colloques universitaires parce qu'ils n'osent pas, puis on ne les invite pas d'ailleurs en général.
D'ailleurs, on ne les invite pas. Oui,
qui sont les journalistes spécialistes du vin. Il y en a d'excellents en France qu'on nous envie partout à l'étranger. Enfin, il y en a de très bons anglais et américains aussi. Hein. Mais les journalistes français sont souvent excellents, ont un esprit critique extraordinaire, une capacité à comparer les vins, à les décrire et à les noter qui est absolument remarquable. Et donc, j'ai tenu à avoir aussi leur témoignage. Et ils ont accepté bien volontiers de participer, de nous donner des textes qui... ne sont pas des textes universitaires, mais qui montrent tous à quel point la pensée de Roger Dion est féconde, même si tout le monde n'est pas toujours d'accord avec tout ce que dit Roger Dion. Mais j'ai encore depuis quelques années que j'essaye de remettre à l'honneur cette pensée. J'ai toujours des discussions avec un certain nombre de mes amis viticulteurs qui sont toujours un tout petit peu angoissés quand on remet en cause le primat du facteur physique.
Oui,
pourquoi?
De la terre,
pourquoi?
Du géologique.
Mais pourquoi? Parce
oui.
que quand vous êtes propriétaire d'une exploitation viticole dans une région réputée, par exemple, en Champagne, si vous avez un hectare de vigne, ça vaut 1 million d'euros. En Bourgogne, en Grand Cru, ça vaut plusieurs millions d'euros, un hectare de vigne. Les châteaux de Bordeaux, les châteaux réputés, se vendent plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros parce que leur réputation est telle que ça a fait monter les prix. Prix des vins, mais prix de la terre aussi. Donc si on remet en cause ce que juge être leur trésor.
De la
je me souviens
terre,
un jour d'avoir
oui.
expliqué dans une conférence cela, et il y avait une propriétaire bordelaise bien connue, très sympathique d'ailleurs, avec qui je suis très, très ami, qui a dit, mais qui était très en colère. C'est la première fois que je la rencontrais, depuis on a beaucoup parlé, mais qui m'a dit, c'est pas possible ce que vous dites. Moi j'ai mis toute ma fortune sous mes pieds, et vous me dites que ça ne vaut rien. Et, donc j'ai nuancé. Bien entendu que la terre vaut cher, et que c'est pour ça que les grands vins valent très cher. Parce que quand on vend, quand il y a des héritiers, plusieurs propriétaires, ils veulent avoir des dividendes en fonction de ce qu'ils croient être leur capital, donc on le comprend. Mais il faut surtout mettre à l'honneur le travail des vignerons, le travail des viticulteurs, le travail des vinificateurs, le travail des négociants. C'est tout ça aussi qui fait la qualité du vin.
La vigne, c'est toute l'année qu'on s'en occupe, non ? Il n'y a pas de période où on s'arrête.
Il n'y a aucune période. Il faut prendre des décisions tous les jours. Quand on est exploitant viticole, surtout dans les grands crus, il faut prendre des décisions tous les jours et qui sont parfois des toutes petites décisions, mais qui engagent l'avenir du vin mis en bouteille. C'est-à-dire qu'il y a des décisions à prendre dans la vigne, il y a des décisions à prendre dans la cave, et il y a des décisions à prendre commerciales, de contact avec les clients, il y a des voyages à faire vers les futurs clients. Tout ça est d'une très grande complexité, une très grande richesse, mais c'est vraiment un métier polyvalent, la viticulture. Le bon vin, aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce mariage harmonieux entre beaucoup de talents, et je mets talent au pluriel, des talents techniques, mais techniques au sens agronomique du terme, des talents en biologie, en vinification, c'est de plus en plus complexe et on maîtrise de mieux en mieux le processus, mais aussi des talents commerciaux et des talents pour en parler. Parce que pour vendre le vin, il faut aussi le discours avec. Et beaucoup de grands vignerons sont souvent aussi des gens qui parlent avec beaucoup d'amour de leur vin, et ça aide profondément. Pourquoi est-ce que certains propriétaires de Bordeaux vont en Californie, à Shanghai, à Moscou? C'est pas uniquement pour se promener. Souvent, ils président des banquets au cours desquels sont servis leurs vins. C'est pour faire connaître et que les futurs acheteurs associent concrètement le bon vin, qu'on leur fait boire, avec la personnalité du propriétaire et du vigneron. Et ça, c'est fondamental. Il faut que derrière le vin est un produit tellement humain, tellement culturel, qu'il faut voir, il faut sentir la personnalité du vigneron derrière le vin. Sur un même terroir physique, on peut faire toutes sortes de vins. Vous avez un bon exemple, c'est le Clos de Vougeot. Clos de Vougeot, c'est 50 hectares. Il y a 80 propriétaires. C'est divisé en 80 petits morceaux, tout petits. Eh bien, chaque année, il y a 80 vins différents. Il y a un peu de différence entre le haut et le bas du Clos de Vougeot, mais il y a surtout une différence de talent des vignerons. Et donc, il y en a qui réussissent merveilleusement bien, d'autres un peu moins bien. Il y a ceux qui ont tellement besoin d'argent qu'ils laissent pousser un petit peu trop de raisins, donc ça dilue un peu le Clos de Vougeot. Donc, c'est extraordinaire de voir sur un si petit espace qu'on fait 80 produits différents. Mais exactement comme avec une partition de musique, vous mettez 80 musiciens pour l'interpréter, la même partition, et ça vous donnera 80 interprétations différentes.
Toujours la comparaison, cher Jean-Robert Pitt, entre le vin, la musique, au tel point d'ailleurs que vous dites la vigne, c'est comme une page blanche.
Oui, c'est Roger Dion qui dit le terroir, il pousse très très loin, mais le terroir n'a pas plus d'importance que la toile d'un tableau pour un peintre. Bon, c'est vrai
oui,
que
ça relativise un peu, mais enfin, comme vous dites, vous avez apporté les nuances qu'il
fallait.
Prenons
une autre, si vous me permettez.
Un autre exemple.
Oui, un autre exemple qui me semble plus éclairant que la toile, parce que la toile, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qui vient derrière. Mais prenons le David de Michel-Ange qui est à Florence, cet immense bloc de marbre dont personne ne savait qu'en faire. C'était un bloc extraordinaire, d'un marbre d'une pureté merveilleuse, avec juste un défaut sur le côté. Et Michel-Ange a réussi à interpréter la personnalité de Florence grâce à ce David, et de ce défaut du marbre, il a fait un déhanchement et un geste du bras du David qui donne toute son élégance et sa force et sa puissance à cette statue. Eh bien, le terroir physique, c'est un peu le morceau de marbre de Carrare. Il y a des terroirs qui potentiellement sont extraordinaires, mais dont on peut ne pas tirer grand-chose. Le Médoc était, il ne faut pas oublier, les grands châteaux Latour, château Lafitte Rothschild, Mouton Rothschild, c'était au XVIIe siècle de la terre à moutons. Il n'y avait rien, pas un pied de vigne dessus, on a planté seulement à partir du XVIIe siècle, et on en a fait en deux siècles, en trois siècles, les plus grands vins du monde.
Et à l'inverse, on disait justement, j'ai lu dans Roger Dion aussi, que les vins de Seine étaient extrêmement appréciés dans le haut Moyen-Âge, puis que petit à petit, ça s'est avili. Il y a un avilissement
oui,
des alors, terroirs, où il y a un
non,
désintérêt.
Non, il n'y a aucun avilissement des terroirs. Il y a le fait d'abord qu'au haut Moyen-Âge, il faisait plus chaud qu'au bas Moyen-Âge. Et deuxièmement, il y a le fait que les vins de l'époque étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. On faisait des vins qui faisaient 7 degrés, 8 degrés, qui ne pouvaient pas se conserver. Donc, on les buvait avant le printemps. À partir du mois de mai, juin, on n'avait pas de soufre. Les conditions d'hygiène étaient très moyennes. Les vins étaient foulés aux pieds. Donc, il y avait énormément de possibilités de développement bactérien, de maladies du vin. Donc, c'était des vins qu'on buvait dans l'année. Comme dans l'Antiquité, c'était un peu mieux parce qu'on savait les conserver plusieurs années en amphore, mais on mettait tellement d'additifs, alors cette fois-ci, du plâtre, de l'eau de mer, des herbes, etc., de la poix, de la résine, bah, c'est un peu comme le résiné grec.
Oui.
On devine qu'il y a du vin derrière, mais ça sent surtout la résine, pour la conservation.
Merci Jean-Robert Pitt. Avez-vous encore un mot à nous dire sur ce gros livre d'actes de colloque
Non, je trouve émouvant juste une chose que je voudrais dire, c'est que le livre de Roger Dion, j'avais acheté l'édition originale qu'on trouvait à l'époque quand j'étais étudiant en dépôt aux presses universitaires de France, place de la Sorbonne, librairie qui n'existe plus. Et c'est un des premiers livres que j'ai acheté en étant étudiant, parce qu'on nous en avait parlé en cours, et puis je m'intéressais au vin, et ça a été une illumination pour moi, et je n'ai cessé. Finalement, donc, ça remonte à 60, j'ai dû l'acheter en 67, 68, quelque chose comme ça. Mais ça remonte à plus de 40 ans. Et c'est un livre que je n'ai cessé de relire, de redécouvrir, avec toujours autant de joie et de plaisir, un peu comme mes collègues de littérature, spécialistes de Montaigne ou de tel ou tel grand écrivain, reprennent le texte et à chaque fois, ils voient des choses nouvelles, ils découvrent les choses nouvelles. Donc, Roger Dion, c'est une pensée d'une extraordinaire fécondité et c'est surtout jubilatoire.
Est-ce celui qui a décidé de votre vocation de géographe ? Enfin non, pas de géographe, mais d'amateur.
D'amateur de vin.
De vin et pas seulement amateur, vous écrivez, vous avez écrit beaucoup de livres sur le vin, la bonne chère,
oui,
etc.
Oui, donc j'avais fait les vendanges en Bourgogne en 1966. Et là, mon chemin de Damas, où j'ai découvert les merveilles de ce métier que je ne connaissais pas, non seulement du vin, mais de tout ce qu'il y a derrière. Et donc Roger Dion est venu nourrir un peu cette cet émerveillement d'adolescent, enfin de jeunesse, et je n'ai cessé effectivement de m'y intéresser en me disant que je suis loin d'avoir tout compris, d'avoir tout découvert, que c'est un champ de la recherche pluridisciplinaire, extraordinaire pour géographes, historiens, anthropologues, biologistes, etc. Il y a du travail à faire pour tout le monde et tout ça dans le plus grand des plaisirs avec modération.
Modération. Merci Jean-Robert Pitt. Je rappelle les titres de ces deux livres dont nous avons parlé, donc de Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle chez CNRS Éditions, et de Jean-Robert Pitt, mais ce sont les actes du colloque qu'il avait organisé, Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir-boire, et c'était aussi chez CNRS Éditions. Merci et à bientôt pour une autre émission de Géographie.
Merci beaucoup.